Introduction. La passion du moine. Céder à l'appel de sa passion est dangereux. Thomas a eu cette épiphanie là où l'on s'y attendrait le moins. Dans la forêt de chênes qui borde le versant méridional de Tremper Mountain, sur l'un des innombrables sentiers sillonnant les quelques 100 hectares de terrain du monastère de Zen Mountain, établi dans cette région des Catskills depuis le début des années 1980. Thomas était alors à mi-parcours d'un séjour de 2 ans dans ce monastère en tant que moine laïque. Son arrivée l'année précédente concrétisait ce job de rêve auquel il aspirait depuis des années. Sa passion pour le zen l'avait conduit dans cette retraite paisible des Catskills, pensant qu'il y serait heureux. Pourtant, cet après-midi-là, en pleine forêt, il a éclaté en sanglots. Son rêve se brisait. « Je me suis toujours demandé quel est le sens de la vie », me confia Thomas quand je le rencontrai pour la première fois dans un café de Cambridge, Massachusetts, États-Unis, des années après sa prise de conscience des Catskills. Il avait analysé son parcours avec lucidité et était impatient d'en parler, comme si cela pouvait l'aider à exorciser les démons de son passé compliqué. Après avoir décroché 2 licences, philosophie et théologie, puis un master en religion comparée, Thomas avait décidé que la pratique du bouddhisme zen était la garantie d'une vie qui ferait sens. Il y avait tant de points communs entre la philosophie et le bouddhisme que je me suis dit « je vais tout simplement pratiquer le bouddhisme pour répondre aux grandes questions », me confia-t-il. Toutefois, après ses études, Thomas a eu besoin de gagner sa vie. Il a donc occupé divers emplois. Par exemple, pendant 1 an, il a enseigné l'anglais à Kumi, une cité industrielle de Corée du Sud. Vivre en Asie peut sembler romantique à certains, mais pour Thomas, l'exaltation de l'exotisme n'a pas duré. Tous les vendredis soirs, après le travail, les hommes se rassemblaient sous les tentes des étals de rue, me raconta-t-il. Ils buvaient du soju, une liqueur de riz distillée, jusque tard dans la nuit. En hiver, de la vapeur s'échappait des tentes à cause de tous ces types qui buvaient. Ce dont je me souviens surtout, c'est que le lendemain, les rues étaient couvertes de vomi séché. Thomas a poursuivi sa quête en Chine, au Tibet et en Afrique du Sud, avant de se retrouver à Londres pour un job plutôt ennuyeux de saisie de données. Durant toute cette période, il s'est convaincu que le bouddhisme était la clé de son bonheur. Petit à petit, s'est forgé l'idée de devenir moine. « J'avais ce fantasme incroyable, pratiquer le zen et vivre dans un monastère. Il fallait que ce rêve devienne réalité. » Comparé à ce fantasme, tous les autres boulots faisaient pâle figure. Thomas était déterminé à écouter sa passion. C'est à Londres que Thomas a entendu parler du monastère de Zen Mountain pour la première fois. Son sérieux l'a immédiatement séduit. On y pratiquait un zen vraiment intense et sincère, se souvient-il. Il était convaincu que sa place était là-bas. Le processus d'inscription dura 9 mois, quand Thomas débarqua enfin à Kennedy Airport après avoir été accepté pour pratiquer et vivre au monastère, il est monté dans le bus direction les Catskills, un trajet de 3 heures. Après avoir quitté l'effervescence citadine, le bus a traversé des bourgades au charme suranné, avec à chaque kilomètre un paysage de plus en plus beau. Il s'est arrêté au pied de Tremper Mountain pour laisser Thomas à un carrefour, un vrai cliché. Ce dernier s'est engagé sur la route menant à l'entrée du monastère, gardé par un portail de fer forgé ouvert pour accueillir les nouveaux arrivants. Une fois sur le domaine, Thomas s'est approché du bâtiment principal, une église convertie sur 4 niveaux en pierre bleue et chênes locaux. La littérature officielle décrit le lieu en ces mots. C'est comme si la montagne s'offrait en un lieu d'habitation pour la pratique spirituelle. Après avoir franchi la double porte de chêne, Thomas fut accueilli par le moine chargé de recevoir les nouveaux arrivants. Peinant à trouver les mots, Thomas finit par me dire « Vous êtes affamé et vous savez que vous allez faire un repas fantastique. Voilà ce que ce moment représentait pour moi. » La nouvelle vie de moine de Thomas a assez bien commencé. Il logeait dans une petite cabane dans la forêt, à l'écart du bâtiment principal. Peu de temps après son arrivée, il a demandé à un moine qui vivait dans une cabane similaire depuis plus de 15 ans s'il n'était pas fatigué de faire le trajet entre son logement et le bâtiment. « Je commence tout juste à l'apprendre », avait répondu le moine, concentré. Au monastère de Zen Mountain, les journées commençaient dès 4h30, selon la période de l'année. En silence, les moines saluaient le matin avec 40 à 80 minutes de méditation, assis sur des tapis disposés avec une précision géométrique dans le hall principal. La vue dispensée par les baies gothiques à l'extrémité de la salle était spectaculaire, mais les moines, par terre, n'en profitaient pas. À l'autre bout étaient assis deux surveillants qui, de temps en temps, faisaient les 100 pas entre les tapis. Si vous craignez de vous endormir, vous pouviez demander à ce qu'ils vous frappent avec un bâton, prévu à cet effet. Après le petit déjeuner servi dans ce même hall, chacun se voyait attribuer une tâche. Entre autres tâches ménagères, Thomas nettoyait les toilettes, mais il était également chargé, de façon un peu anachronique, de mettre en page le journal du monastère. La journée se poursuivait généralement avec d'autres séances de méditation, des entretiens avec des moines seniors et souvent de longues et insondables conférences sur le dharma. Les moines avaient droit à une pause chaque soir avant le dîner. Thomas en profitait alors pour allumer le poêle à bois dans sa cabane, pour affronter les froides nuits des Catskills. Les problèmes de Thomas ont commencé avec les koans. Dans la tradition zen, le koan est une sorte d'énigme se présentant sous forme d'anecdote ou de question. Il est destiné à mettre au défi le sens de la logique et oblige à une compréhension plus intuitive de la réalité. Pour m'expliquer le concept, Thomas me donna cet exemple. « Montre-moi un arbre inébranlable par grand vent. »« Je ne vois même pas ce que je peux répondre à ça, » dis-je. « Lors d'un entretien, » m'expliqua Thomas, « il faut répondre du tac au tac, sans réfléchir. Si vous prenez le temps de penser, c'est terminé pour vous. »« Alors ce serait terminé pour moi. » »« Voilà ce que j'ai fait pour réussir le koan, » me dit Thomas. « Je me suis mis debout comme un arbre et j'ai bougé les mains doucement, comme s'il y avait du vent. »« Ok ?» L'idée, c'est qu'il s'agit d'un concept qu'on ne peut pas vraiment traduire par des mots. Pour un jeune pratiquant, le koan mu, la première des 8 portes du bouddhisme zen, est le premier gros obstacle à franchir. Tant que cette étape n'est pas atteinte, vous n'êtes pas considéré comme un étudiant sérieux. Thomas a semblé réticent à m'expliquer ce koan. Ses énigmes défiant la rationalité, toute tentative de les décrire à un non-pratiquant les dévalorise. Je n'ai donc pas insisté, mais j'ai googlé ce koan et en voici une traduction. Un pèlerin du chemin demanda au grand maître Zhaozhou : un chien a-t-il ou non la nature de Bouddha ? Zhaozhou répondit : mu. En chinois, mu se traduit peu ou prou par non. Selon les différentes interprétations que j'ai trouvées, Zhaozhou ne répond pas à la question du pèlerin, mais la renvoie à ce dernier. Thomas a eu du mal à réussir ce koan. Il s'est concentré dessus pendant des mois. J'ai travaillé et travaillé sur ce koan. Je me couchais avec lui, je l'ai laissé envahir tout mon corps. Et puis, il a compris. Un jour, je marchais dans la forêt. Un moment passa. Je regardais ses feuilles et « je » avait disparu. Nous vivons tous ce genre d'expérience sans y attacher d'importance, mais quand cela m'est arrivé, j'y étais préparé et j'ai eu un déclic. J'ai compris que c'était tout le koan. Thomas avait eu un aperçu de l'unité de la nature qui constitue le cœur de la compréhension bouddhiste du monde. Cette unité apportait la réponse au koan. Enthousiasmé, lors de l'entretien suivant avec un moine senior, Thomas fit un geste simple, quelque chose que vous feriez dans la vie de tous les jours, qui montrait clairement qu'il avait une compréhension intuitive de la réponse au koan. Il avait franchi la première porte. Il était désormais un étudiant sérieux. C'est peu après avoir réussi le koan mu, en se promenant dans cette même forêt où il avait compris l'énigme, que Thomas eut son épiphanie à propos de la passion. Fort de cette intuition qui lui avait permis de saisir le koan, les conférences absconses et quasi quotidiennes des moines commencèrent à faire sens. En marchant, j'ai réalisé que ces conférences parlaient toutes de la même chose que le koan mu.